Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
6h58, excellent réveil à tous, c'est lundi, on est ensemble jusqu'à 9h, soyez les bienvenus dans Apolline Matin, lundi 1er juin, et écoutez...
Merci d'accueillir les doubles champions de remportite, le Paris Saint-Germain.
Après la deuxième victoire du PSG en Ligue des Champions, la joie et les violences. Près de 800 interpellations dans la nuit de samedi à dimanche partout en France. 71 villes touchées par des dégradations, une cinquantaine de policiers blessés. Côté pile, côté sport, la légende. Dans 10 minutes, Jean-Louis Tour sera avec nous. Il a suivi les Parisiens depuis 48 heures à Budapest, puis au Parc des Princes. Il viendra nous dire pourquoi cette équipe est exceptionnelle. Et puis côté face, la casse. À 7h40, le représentant des commissaires de police sera mon invité dans ce studio. Il nous expliquera pourquoi le dispositif mis en place n'a pas permis de contenir les violences. Lui, il réclame le retour de l'autorité de l'État. Oui, mais comment? Et puis à 8h30, la politique. Mon invité dans le face-à-face, ce sera le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Il dénonce une violence d'atmosphère devenue insupportable. Pourquoi on fait la fête comme ça? Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs faire la fête sans débordement? Pourquoi les jeunes cassent? Et vous, vous en pensez quoi? Qu'en avez-vous vu? Avez-vous été témoin de ces violences? Vous venez débattre avec nous, réagir et nous raconter. Je vous attends au 3216 et sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Dans un instant, la météo, enfin le journal de 7h, mais d'abord justement la météo. À 6h59, on retrouve une température à peu près normale, Géraldine.
À peu près normale. Alors on reste toujours un petit peu au-dessus. Mais alors effectivement, rien à voir avec la semaine dernière. Là, on va avoir une journée plutôt tranquille, souvent bien ensoleillée. Ce sera un petit peu plus nuageux sur la pointe bretonne, avec même un petit peu de pluie cet après-midi. On a quelques orages vers les Pyrénées, les Alpes du Sud. Mais sinon, c'est un temps sec. Et donc avec ces températures, alors qui restent toujours un petit peu au-dessus des normales, je vous le disais, avec quand même 24 degrés à Lille cet après-midi, 26 à Paris, 27 à Bordeaux, Toulouse, 28 à Lyon, 31 à Marseille, jusqu'à 32 à Perpignan. Ça va d'ailleurs continuer de baisser un petit peu dans les prochains jours, avec demain une journée qui va être très agitée avec des averses orageuses sur tout le pays.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Il est 7h, excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un dimanche au paradis, celui des joueurs du PSG, célébré au lendemain d'un deuxième sacre européen par des milliers de supporters du Champ de Mars. Au Parc des Princes, RMC y était. La joie d'un côté, la violence de l'autre, avec des débordements plus nombreux que l'an dernier, largement dénoncés par Emmanuel Macron. Plus de 780 personnes ont été interpellées partout en France. C'est un record d'investissement historique attendu au Salon Choose France, à Versailles, avec en tête de gondole l'intelligence artificielle.
Paris fête le retour de ses doubles champions d'Europe.
Maillot, écharpe, drapeau, la capitale parée de rouge et de bleu. Des dizaines de milliers de supporters se sont retrouvés dans les rues de Paris pour célébrer ces héros arrivés de Budapest pour un moment de communion au Champ de Mars. D'abord face à la Tour Eiffel, l'image restera dans les mémoires. La fête s'est poursuivie plus tard au Parc des Princes. L'antre du PSG a sombré dans une douce folie devant 47 000 spectateurs en liesse venus Romain Hug célébrer le deuxième sacre des joueurs parisiens.
Il est presque 22h au Parc des Princes. L'ambiance est déjà totalement survoltée quand le speaker prend le micro.
Il est temps d'accueillir les héros de Budapest.
Un à un, les 22 joueurs entrent sur la pelouse. Certains lâchent quelques pas de danse, comme Désiré Doué, Bradley Barcola. Mais la bataille de l'applaudimètre, elle est remportée par le numéro 10. Puis vient le moment tant attendu. Sur une chanson d'Edith Piaf, le capitaine Marquinhos et le président Nasser El Khelaifi apportent ensemble le trophée de la Ligue des Champions. Sur le podium, c'est l'effervescence. En tribune, la folie.
Bonsoir.
Pendant 5 minutes, impossible pour Nasser de placer 2 mots.
Bonsoir, bonsoir.
Sans cesse coupé par la clameur des supporters et des joueurs. Marquinhos aussi est joyeusement chahuté.
La deuxième, elle est incroyable.
Projeté en l'air par ses coéquipiers avant qu'enfin lui-même ne soulève le trophée sur un titre tout trouvé des Daft Punk. One More Time, encore une fois, comme pour nourrir les espoirs d'une passe de 3 l'année prochaine.
Et entre deux célébrations, les joueurs du Paris Saint-Germain ont fait une pause protocolaire reçue à l'Élysée, félicité par Emmanuel Macron, qui a largement dénoncé les violences qui ont émaillé la fête à Paris et dans plus de 70 villes en France.
Malheureusement, on a vu, et je veux pas qu'on s'habitue à ça, et personne n'a envie qu'on s'habitue à ça, des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes. Et donc je veux remercier le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées face à ce qui est inqualifiable. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras-le-bol.
Et le bilan ce matin, c'est plus de 780 personnes interpellées dans la nuit de samedi à dimanche. Parmi eux, 457 ont été placés en garde à vue. Pierre Bazin, service police-justice RMC, nous rejoint. On va se pencher, Pierre, sur le profil de ces gardés à vue. Dans la majorité des cas, ce sont des hommes.
Oui, à Paris, en tout cas, sur les 312 personnes actuellement en garde à vue, il y a seulement 10 femmes. Tous ou presque sont des hommes originaires de Paris ou de la région parisienne. Un constat similaire pour les 31 mineurs placés en garde à vue le soir du match. Ce sont exclusivement des garçons qui résident principalement en Île-de-France. Le plus jeune étant âgé de 14 ans. Parmi tous ces mineurs, le parquet de Paris indique qu'un peu moins d'entre eux font l'objet, de la moitié d'entre eux font l'objet d'un avertissement pénal ou devront faire un stage. Pour faire face à cet afflux global d'interpellations, le parquet a mobilisé dès samedi soir 14 magistrats. C'est plus que ce qui était prévu initialement. Et puisqu'une grande partie des personnes actuellement entendues par les policiers vont faire l'objet de poursuites pénales classiques, le tribunal judiciaire de Paris prévoit d'augmenter le nombre d'audiences de comparution immédiate.
Et les précisions ce matin de Pierre Bazin, service police-justice RMC.
Et ne manquez pas, à 8h30, mon invité ce sera Jordan Bardella, le président du Rassemblement National dans le face-à-face. Et je vous attends, vous, au 32-16 ou sur le WhatsApp de l'émission. Appelez-nous pour réagir effectivement à ces violences et témoigner si vous en avez vu également. Je vous attends.
Il est 7h05, vous écoutez RMC. Plus de 400 personnes réunies hier à Florence dans le Gers pour tenter de retrouver trace de Liana, jeune adolescente de 11 ans emportée, disparue depuis vendredi dernier. La dernière fois qu'elle a été aperçue, c'était dans le véhicule d'un homme, père de sa meilleure amie. Il a été placé en garde à vue. D'importants moyens restent mobilisés pour tenter de la retrouver. Protéger les enfants contre les violences sexuelles, notamment dans les établissements scolaires. Objectif de cette proposition de loi post-Betaram qui débarque à l'Assemblée nationale ce lundi, coécrit par un député macroniste et un insoumis. Le texte prévoit notamment la reconnaissance d'une journée d'hommage pour les victimes, l'allongement des délais de prescription ou encore la fin du secret de la confession. L'Église, Louis Salé, s'y oppose et exprime dans un communiqué sa grande préoccupation.
Le secret de la confession avait déjà suscité un vif débat en 2021 lorsque la commission Sauvé avait révélé l'ampleur des abus sexuels au sein de l'Église. Mais la position des évêques reste inchangée. Ce secret doit être protégé au même titre que d'autres secrets professionnels qui concernent par exemple les avocats et les médecins. Monseigneur Vincent Jordy est vice-président de la Conférence des évêques de France.
Il faut que dans une société de la transparence, il puisse aussi y avoir des lieux où des personnes sachent qu'elles puissent être écoutées en toute confiance et en toute confidentialité.
Le secret médical, lui, peut être levé si des faits de violence sur mineurs sont constatés. C'est même obligatoire en cas de danger imminent. Tandis qu'aux yeux de l'Église, le secret de la confession reste absolu, que ce soit avec un agresseur ou une victime.
Mais un prêtre entendant des choses dont il estime qu'il serait important qu'elles soient portées à la connaissance, par exemple, des autorités publiques, peut très bien dire à la personne « J'ai besoin de parler avec vous et de vous écouter en dehors de la confession pour recueillir ce que vous me dites » et pouvoir faire un signalement, par exemple.
Et pour protéger ce secret de la confession, l'Église invoque aussi la liberté de culte.
Et on en débattra tout à l'heure à 7h50, ne manquez pas, comme tous les lundis, la voix de droite. Ce matin, c'est Louis Sarkozy, donc. Et pour lui, eh bien, les prêtres sont des citoyens comme les autres, confession ou pas. Ils doivent dénoncer les faits dont ils ont connaissance. N'hésitez pas, vous aussi, à réagir au 32-16.
Le coup d'envoi de la grand-messe des investisseurs étrangers en France ce lundi, le salon Choose France, 9e édition, 200 PDG du monde entier réunis au château de Versailles, prêt à investir dans le pays 40 milliards d'euros l'an dernier. C'était un record battu cette année grâce à SoftBank, spécialisé dans la nouvelle technologie. Le géant japonais Sonia Gobry annonce 75 milliards d'investissements.
C'est l'annonce la plus spectaculaire de ce sommet Choose France. SoftBank veut développer les infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Près des deux tiers de cet investissement XXL seront consacrés d'ici à 2031 à la construction de data centers, ces immenses centres où sont stockées nos données numériques. Ils seront implantés dans les Hauts-de-France, près d'Amiens, de Valenciennes et de Dunkerque. Des installations très gourmandes en électricité et c'est justement là que la France marque des points. Elle en produit de manière abondante et pour le président de SoftBank, ça a été absolument décisif. Le géant japonais a arrêté son choix au moment de la visite d'Emmanuel Macron à Tokyo en avril dernier. Emmanuel Macron qui veut faire de la France un des leaders mondiaux de l'IA, un enjeu économique mais aussi politique à un an de la fin de son quinquennat.
Un nouveau pétrolier russe a raisonné par la France hier dans l'Atlantique. Précision ce matin d'Emmanuel Macron, c'est la quatrième interception de ce genre, dit le chef de l'État. De notre côté, la guerre au Moyen-Orient et la paix qui semble s'éloigner avec l'Iran qui dit avoir ciblé une base utilisée par les États-Unis en représailles aux frappes américaines menées ce week-end. De l'autre, le Liban au cœur de préoccupations internationales et de la France notamment qui a demandé une réunion d'urgence ce lundi à l'ONU après que Benjamin Netanyahou a appelé à poursuivre son offensive contre le Hezbollah dans le sud Liban. Elle porte les derniers espoirs français à Roland-Garros. Diane Paris engagée ce lundi en huitième de finale du tournoi parisien qui va fêter les joueurs du Paris Saint-Germain. Ils sont attendus porte d'Auteuil pour présenter le trophée de la Ligue des Champions aujourd'hui.
Et justement, écoutez.
Après tant d'années, des galères, des combats, on porte à Paris et j'ai...
Paris Saint-Germain sur le toit de l'Europe pour la deuxième année consécutive. Il y a eu certes les violences, on en parlait ce matin, mais il y a d'abord eu la légende. Et vous venez nous en parler, Jean-Louis Tour, bonjour.
Bonjour Apolline.
Rédacteur
bonjour
en chef évidemment football sur RMC. Vous les avez suivis depuis 48 heures les joueurs. Vous étiez en Hongrie pour RMC, vous avez ensuite suivi la présentation du trophée hier au Parc des Princes. Le PSG est définitivement entré dans la légende. Voilà votre parti pris, vous nous le dites dans un instant. Et vous aussi, on vous attend au 32-16, venez de nous le dire, 7h09.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC.
B A R C.
Le Paris Saint-Germain triomphe une nouvelle fois en Ligue des Champions. Jean-Louis Tour, rédacteur en chef football RMC. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Apolline.
Vous avez quasiment passé ces 48 dernières heures, vraiment minute par minute après avec les joueurs du PSG, de Budapest où avait lieu la finale, jusqu'au Parc des Princes où ils nous ont présenté leur trophée hier. Deuxième victoire consécutive pour le PSG. On le disait ce matin, on parle de la joie et on parle des violences, mais d'abord de la joie, d'abord de cette légende. Pour vous, ça y est, la légende est écrite.
Oui, c'est le slogan qui est revenu le plus ces dernières heures. Une fois c'est historique, deux fois c'est légendaire. Alors ça venait des supporters du PSG à la base, ça a été repris par les joueurs également hier tout au long de la journée lors des célébrations. Et c'est vrai que dans l'histoire du foot, dans l'histoire de la Ligue des Champions, cette compétition qui existe depuis 56, il y a des équipes qui ont gagné une fois comme ça en one shot la Ligue des Champions, mais des équipes qui en gagnent deux de suite, bah tout de suite ça met le PSG dans la classe des Real Madrid, Liverpool, Milan AC, tous ces grands clubs de l'histoire du foot. Alors, je vous parle même pas de trois fois de suite. Là, c'est encore plus légendaire. Faudra trouver un autre superlatif.
Oui, mais on peut le faire, non?
Ah bah c'est possible, bien sûr, bien sûr. Ah bah après la saison qu'on a vue, où le PSG a réussi à résister à toutes les difficultés de cette saison, qui était encore plus importante que l'année dernière, c'est-à-dire une préparation tronquée, peu de jours de vacances avec le mondial des clubs, des blessés au cours du début de saison. Et malgré tout ça, le PSG a su gérer les temps de jeu des uns et des autres et arriver frais dans les matchs qui comptent. Et le parcours n'en est que rehaussé. Ce parcours contre des équipes qui en plus ont progressé par rapport à l'année précédente, ben on sent qu'il y a eu plus d'embûches, mais que les Parisiens sont parvenus à s'en défaire. Donc tout est possible pour la saison prochaine de refaire la même chose. Maintenant ils ont la recette, ils ont trouvé la recette pour gagner et ils ont trouvé la recette pour gagner de nouveau l'année suivante avec un effectif qui en plus est très jeune, 24 ans de moyenne d'âge. Et ben ça veut dire que tous ces joueurs là, les 11 titulaires, il n'y a pas de raison qu'ils soient pas là la saison prochaine et donc d'être performants pour aller chercher cette troisième étoile.
Ça veut dire effectivement que les perspectives, l'horizon est dégagé. Alors une finale quand même beaucoup plus fermée que l'an dernier, hein. L'an dernier on se rappelle quand même que c'était 5-0 contre l'Inter Milan. On a vraiment l'impression que jusqu'au bout du bout c'était quand même sur un fil, même si la solidité de l'équipe est totale.
Oui, oui, bien sûr. Solidité, confiance en cette équipe, ça s'est ressenti tout au long du parcours en Ligue des Champions et même sur cette finale, alors que c'était difficile. Effectivement, cette équipe d'Arsenal, c'était une équipe qui était complètement à l'opposé de ce qu'on a pu voir, une équipe qui refusait le jeu et les Parisiens ont eu du mal à se procurer des occasions. Mais finalement, le plaisir, il est venu dans l'attente aussi pour les supporters parisiens qui comparent forcément les émotions avec la finale de l'année dernière. Bah, au moins, ils sauront que celle-là, il y a eu souffrance jusqu'au bout, il y a eu incertitude. Mais ça provoque une délivrance avec des émotions décuplées, c'est une certitude.
Avec désormais quelque chose qui dépasse le club, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que, d'ailleurs, quand on regardait des images, même des Français qui étaient à l'étranger, parisiens ou pas parisiens, tout le monde était derrière l'équipe. Enfin, tout le monde. Il y a toujours un village irréductible, je dirais, du côté des Bouches-du-Rhône, peut-être. Mais enfin, globalement, on a l'impression quand même que il y avait une fierté presque nationale.
Oui, alors ça dans le foot c'est toujours un peu particulier, en tout cas dans le foot d'aujourd'hui, je trouve d'observer ça, parce que les clivages même entre supporters sont de plus en plus importants, et autant dans les années 70 avec Saint-Etienne ou avec Marseille en 90, bah on savait que toute la France était derrière le représentant français qui allait le plus loin possible. Là, ce phénomène aujourd'hui en 2026, il existe un peu moins, il existait un peu moins parce qu'effectivement la tendance est en train peut-être de s'inverser, même si je pense que même des supporters d'autres villes, pas qu'à Marseille, garderont toujours leur club avant le PSG. Mais c'est vrai que tous les supporters de foot neutres, je dirais, eux, ils peuvent se prendre d'affection pour le PSG parce que cette équipe dégage des valeurs de générosité, de don de soi qui plaisent à tous les amateurs de foot.
Mais justement, quand vous dites, Jean-Louis, chacun des joueurs, il est là avec cette générosité, avec ce don de soi, avec cette gratitude aussi qui a été exprimée hier soir. Mais est-ce qu'on n'aurait pas attendu d'eux qu'à un moment, ils s'expriment sur les violences de manière plus franche en disant « pas en notre nom, ça n'a rien à voir avec nous, on condamne ». Ça, on l'a pas entendu. Est-ce que ça n'a pas manqué ?
Oui, bah, si vous voulez, on peut considérer ça.
Je l'aurais
voulu. Non, mais ça peut s'entendre. Après, on peut aussi se dire que eux, ils sont peut-être à ce moment-là, en tout cas, déconnectés, parce que ils sont dans leur célébration, dans l'émotion, dans la fête, dans le peu d'heures de sommeil. Et puis ils se disent, nous, notre rôle, c'est de jouer au foot. Notre rôle. Après, on reproche aux footballeurs très souvent de prendre position, d'aller au-delà de leur rôle de footballeur.
Non, mais là, on leur demande pas de parler de la politique. On leur demande
de dire,
un match derrière, il y a de la casse. On les a vus d'ailleurs applaudir.
Ils ont laissé leur président le faire. Nasser Al-Khelaifi l'a fait. Il a pris la parole sur les violences. Bah oui. Bon après, ils sont joueurs de foot. Mais bien sûr qu'ils condamnent ces violences. Mais effectivement, ils auraient pu le dire.
Moi, je trouve honnêtement que ça leur aurait pas coûté grand chose. Ça n'aurait rien enlevé à la magie et à la puissance de leur victoire. Mais en termes même d'image, de modèle pour les jeunes, le fait de condamner aurait eu quand même un écho assez remarquable, et je trouve que ça a manqué. Vous savez quoi, on va donner tout de suite la parole aussi à Nicolas qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Nicolas.
Bonjour Apolline, bonjour l'équipe.
Vous étiez Porte de Saint-Cloud, c'est ça? Vous êtes chauffeur-livreur?
Exactement, tout à fait. J'étais Porte de Saint-Cloud samedi soir avec des gars de Lille qu'on a rencontrés dans un petit parc, là, on regardait le match.
Ouais.
Et avec une enceinte et tout, donc on était posés entre adultes, tout ça, et on a vu des gamins là qu'on passait toute la soirée à pas regarder le match, à tirer au mortier sur les CRS. On s'est fait gazer, on a été voir les CRS, on leur a dit non, on n'a rien à voir, ils ont dit on cède, tout à l'heure vous êtes là. Mais il dit il y a les petits cons qui tirent de partout dans le parc, on n'a pas le choix, quoi. Ils n'en ont rien à...
Comment vous l'avez vécu, ça, vous?
Bah, ils sont pas venus pour voir le match. Faut faire la distinction entre les gens qui sont venus supporters ou gens contents de soutenir une équipe française. Mais faut faire la distinction entre les gens qui étaient là pour fêter un événement positif et ceux, les opportunistes, qui sont venus foutre la merde, clairement. Et c'était flagrant.
Ils sont venus que pour ça, pour vous. C'est ça que vous avez observé depuis...
Oui. Ils étaient à 5 mètres de nous, ils tiraient des mortiers, ils regardaient pas le match. Hein. Pendant que nous, on regardait le match, ils regardaient pas, ils couraient partout. Ils allaient d'un côté, ils repartaient de l'autre, ils revenaient, ils tiraient aux mortiers là-bas. Et c'était que ce qu'on voyait. Parce qu'on était côté petit parc. Après, il y avait dans les rues aussi, où ça devait être pareil, de toute façon.
Vous avez réussi à repartir sans trop de complications?
Ouais, ça a été tranquille. Après, on a réussi, et c'est là la différence. Après, on a suivi un cortège quand le PSG a gagné. On est parti dans les rues, direction Trocadéro. Et le problème, c'est que ça tirait des mortiers en l'air, donc très festif, bonne enfance. Le problème, c'est que les filles qui font plus de distinction après. Donc, ils ont gazé tout le monde. Ça s'est éparpillé partout. Alors que dans ce cortège-là, il n'y avait rien. Franchement,
comme
il y avait
vous disiez,
rien.
Quand vous vous retrouvez effectivement à un moment à vous prendre du gaz lacrymo, alors que, comme vous disiez, vous n'aviez rien à voir avec ça. Merci, Nicolas. Jean-Louis,
Apolline, juste un mot quand même. Marquinhos a eu un mot quand même pour les supporters, hein, notamment sur le Champ de Mars, en disant soyez sages dans vos célébrations, plus un message de prévention. Il n'y a pas eu, si vous voulez, condamnation de la veille, mais quand même, il y a eu un message de prévention. Ils sont pas si déconnectés que ça quand même.
Merci beaucoup Jean-Louis pour cette précision. Merci Jean-Louis d'avoir suivi et de continuer à suivre minute par minute et nous avoir fait vivre aussi cette légende sur RMC. Vous n'hésitez pas, comme Nicolas, vous nous appelez au 32-16 pour réagir. Notez également qu'à 8h30 dans le face-à-face, mon invité, ce sera Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Il est 7h21, l'historien d'Apolline Matin est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, le drapeau israélien flotte sur une forteresse, la forteresse de Beaufort au Liban. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, d'une citadelle construite au Moyen-Âge par des chevaliers venus d'Europe, alors en pleine croisade. Un lieu chargé d'histoire, Apolline, qui a toujours fait l'objet de toutes les convoitises.
Vous nous le dites dans un instant. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23, on remonte le temps, comme chaque matin sur RMC avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, l'armée israélienne a déclaré avoir, je cite, « capturé le château de Beaufort ». C'est une forteresse médiévale qui est au sud du Liban.
Oui, et c'est tout un symbole. Le château de Beaufort, c'est un point clé pour dominer militairement cette région très montagneuse. C'est à 5 km à vol d'oiseau de la frontière israélienne. Cette prise de guerre permet à l'armée israélienne d'avoir une base solide en territoire libanais. Mais le plus extraordinaire dans cette affaire, c'est que cette construction médiévale, Apolline, eh bien tout le monde se la dispute depuis plus de 900 ans.
À l'origine, qui a construit ce château ?
Alors, d'abord, il faut un peu de contexte. Nous sommes au XIIe siècle, l'époque où des chevaliers chrétiens et européens multiplient les croisades en Orient. Ces chevaliers, on les appelait les croisés, hein, normal, des croisés qui faisaient la croisade. Leur but, c'était reconquérir la Terre Sainte, donc la région du Christ, qui était en territoire musulman. Le point névralgique, c'était bien sûr Jérusalem, mais toute la zone faisait l'objet de combats, dont évidemment cette forteresse, qui était à l'origine une citadelle arabe. Les croisés s'en emparent en 1139, et c'est sur ce même site qu'ils vont construire un château fort, le château de Beaufort, donc le château que l'armée israélienne a repris hier.
Combien de temps vont rester ces chevaliers venus d'Europe ?
Plus d'un siècle, les croisés vont même créer un royaume chrétien en terre arabe qui s'appelait le royaume de Jérusalem. Beaufort en faisait partie. Alors le château va ensuite être repris par les arabes, puis repris par les croisés, et ainsi de suite, jusqu'en 1268, où un sultan très puissant, qui s'appelait Baybars, règle le problème pour de bon. Il assiège la citadelle et il chasse définitivement les croisés.
Et l'histoire ne s'arrête pas là.
Et non, puisque le château de Beaufort revient dans l'actualité, mais alors là, des siècles plus tard, puisque nous sommes dans les années 70, à l'époque, Israël et les pays arabes étaient en pleine confrontation, l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, transforme le château en base militaire contre Israël. Sa position stratégique leur permet d'envoyer des missiles directement sur l'État hébreu. Et à partir de là, conquérir Beaufort devient une des priorités de l'armée israélienne.
Et la forteresse va à nouveau changer de main ?
Eh oui, ça recommence en 1982. L'armée israélienne parvient à ses fins. Elle lance un raid de grande ampleur avec des hélicoptères, beaucoup de soldats sur la citadelle de Beaufort. Une opération commando couronnée de succès. L'armée israélienne va occuper ce château pendant presque 20 ans, jusqu'à son départ du Liban en l'an 2000. Et depuis 2024, le château bénéficie d'un statut protégé par le droit international, celui de protection renforcée. En gros, ça veut dire que c'est un bien culturel qui doit être très protégé en cas de conflit. Bref, le château de Beaufort, c'est le symbole d'une région perpétuellement en guerre depuis 1000 ans. Et pour l'armée israélienne, cette conquête réalisée hier est une avancée militaire majeure.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Il est 7h25, Arnaud Demanche nous rejoint.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud.
Bonjour.
À 8h30 tout à l'heure dans le face-à-face, mon invité c'est le président du Rassemblement National, Jordan Bardella.
Oui, et pourquoi ? Eh bien, parce que, et ça Mathieu Belliard me l'a signalé par WhatsApp, par SMS, par téléphone, par Snapchat, par mail, il me l'a dit encore 9 fois ce matin quand je suis arrivé, parce que Paris est champion d'Europe ! Et après il a retiré sa chemise et il a fait des moulinets avec, et après il a retiré son pantalon et je lui ai dit stop, et Mathieu a tout de suite fêté ça sur les Champs-Élysées. Alors, il n'a pas cassé l'exposition de Yann Arthus-Bertrand comme la dernière fois. Ça, faut le souligner, faut dire quand c'était bien. Il était gentiment en train de jeter des Vélib dans le canal Saint-Martin.
Oh, non.
Par contre, ses petits camarades ont mis un beau bordel sur les Champs-Élysées. Parce qu'aux Champs-Élysées, en cas de victoire, en cas de défaite,
tous les casseurs font la fête, les abribus sont tous brûlés aux Champs-Élysées.
Alors, très bien.
Alors, on va parler du match deux secondes. Juste, le PSG jouait donc contre Arsenal. Il y a eu prolongation, très belle séance de tir au but, notamment celui de Eberechi Eze. J'ai adoré. Il a posé le ballon, il a pris son élan. Il s'est arrêté, il a balancé un vieux coup de tatane démotivé, comme quand on shoot dans une canette, genre... Et hop, directement en tribune, et on a gagné. Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour savoir si le Qatar avait déposé une grosse palette de bifetons dans sa chambre. Et ensuite, reprolongation, mais cette fois avec l'équipe des CRS contre l'équipe des casseurs.
Voilà.
Ça a duré un peu plus longtemps. Le ministre de l'Intérieur avait promis un dispositif exceptionnel. Les casseurs, ils ont répondu « Super, merci pour l'invite, on arrive !» Et on a suivi ça dans l'intégral foot.
Et Jean-Louis, quel est le score, Jean-Louis ?
Eh bien, après une heure de jeu, le score est de 343 gardes à vue, 5 poteaux arrachés, 4 scooters brûlés.
Oh, c'est formidable !
Et Jordan Bardella a tout de suite célébré la victoire du PSG. Dès la fin du match, il a fait « Yes, on est les champions, on va y avoir des casseurs, on va monter un peu plus dans les sondages. » Et 1, et 2, et 3 points de plus. Et puis, il est allé sur Twitter pour dénoncer les débordements. Déjà, faut reconnaître qu'il n'est pas habitué à autant de violence à Paris, Bardella. Déjà parce qu'on quand on enfreint la loi au RN, on fait ça à Bruxelles. Hein, on laisse Paris tranquille.
Voilà.
Et puis, on rappelle que sa copine, la princesse de Bourbon, des deux Siciles, des trois Suisses et de Rocky IV, au maximum de sa crise d'ado, ses plus grosses bêtises, oui. C'était...
On s'était caché derrière des arbres à chaque fois qu'il y avait des gens qui passaient. On faisait boum. Alors faisait peur.
Bah oui, elle faisait peur. Alors évidemment, même si elle a tué quelques petits vieux en leur causant une crise cardiaque, ça fait quand même plus sage que de cramer des abribus. Mais rendez-vous avec Jordan Bardella. On évoquera tout ça un peu plus en longueur à 8h30.
À tout à l'heure, Arnaud, qu'on retrouve à 8h15. Il est 7h28 pour l'heure et on se retrouve dans un instant. La météo, le journal de 7h30. Et puis juste après, le dispositif de sécurité du ministère de l'Intérieur était-il suffisant? On en parle avec le représentant des commissaires de police. Il sera mon invité. À tout de suite. 7h30, une température normale, Géraldine.
Oui, ça fait du bien, hein, ça y est, on respire, on dort un peu mieux avec des températures qui restent toujours un petit peu au-dessus des normales de saison quand même. En tout cas, aujourd'hui, on va avoir une journée calme, plutôt bien ensoleillée, un petit peu de pluie sur la pointe bretonne cet après-midi, quelques orages vers les Pyrénées et les Alpes du Sud et c'est tout. Et donc, ces températures quand même agréables cet après-midi. On aura 19 degrés à Brest, 24 à Lille, 26 à Paris, 27 à Bordeaux, Toulouse, 28 à Lyon, 31 à Marseille. Ça va baisser encore un petit peu dans les prochains jours avec attention demain des averses orageuses qui vont traverser tout le pays.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
9h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h30 bien sûr, 7h31 même précisément, le journal de Victor Porcher. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Les recherches ont repris ce matin dans le Gers. Les gendarmes tentent de retrouver Liana, 11 ans, disparue vendredi. Le père de sa meilleure amie est en garde à vue et ses explications ne convainquent pas les enquêteurs. Le ras-le-bol et la fermeté. Emmanuel Macron réagit aux débordements qui ont émaillé la victoire du PSG aux quatre coins de la France. Les comparutions immédiates débutent en début d'après-midi dans toute la France. Et le travail, la recherche, l'éducation. On vous explique quels ministères vont subir les coupes budgétaires liées à la guerre en Iran.
C'est toute une commune du Gers qui s'est lancée à la recherche d'une de ses enfants.
En vain, la battue citoyenne d'hier n'a rien donné à Florence. 400 personnes en quête de traces de Liana, 11 ans, disparue à la sortie de son collège vendredi. Pendant ce temps-là, l'enquête, elle, se concentre sur un homme, Amélie Courté, interpellé et interrogé parce qu'il est, semble-t-il, le dernier à avoir vu la jeune fille.
La dernière fois que Liana a été aperçue, c'était à bord de la voiture de cet homme, venu la prendre à la sortie de son collège, vendredi vers 15h. Un homme qu'elle connaissait, précise sa mère, puisque c'est le père de sa meilleure amie.
Nous, on l'a vu une fois, puisqu'on l'a emmené chez lui pour une soirée pyjama en début d'année scolaire.
Mais après cette soirée, elle a demandé à sa fille de ne plus le voir, évoquant des comportements inadaptés.
Mais bon, bah voilà, Liana, si elle a confiance en quelqu'un, elle serait capable de monter dans la voiture s'il lui aurait proposé de la ramener à la maison.
En garde à vue, le père de 41 ans se défend et déclare qu'il a déposé la collégienne à la piscine de la commune. Des informations jugées incohérentes et imprécises, selon la procureure d'Auch. La famille de Liana se dit vidée, fatiguée, assure qu'elle n'a jamais fugué.
Bien sûr que je suis inquiète. C'est horrible, horrible ce qui se passe. Je rêve que d'une chose, c'est qu'on la retrouve. Et voilà.
Hier, plusieurs centaines de volontaires ont participé à une battue pour retrouver la jeune fille de 11 ans, sans succès.
Et la garde à vue de ce suspect doit normalement se terminer aujourd'hui. Nous serons intraitables. C'est la réaction d'Emmanuel Macron au débordement en marge de la victoire du PSG. Réaction devant les joueurs venus présenter la deuxième Ligue des Champions à l'Elysée hier au moment où la machine judiciaire se met en marche. Des comparutions immédiates vont débuter en début d'après-midi. 457 placés en garde à vue dans toute la France parce que le bilan dépasse largement les frontières de la région parisienne. Philippine Boulet, le ministère de l'Intérieur, dénombre au total 71 villes touchées en France.
Comme à Montluçon, Rouen, Saint-Étienne ou encore Montpellier. Selon le ministre de l'Intérieur, dans une quinzaine de villes, à Clermont-Ferrand par exemple, les scènes de violence se sont accompagnées de pillages, principalement dans des magasins de vêtements ou d'articles de sport. À Pau, c'est la bibliothèque municipale qui a été vandalisée. Une dizaine de personnes a forcé les portes d'entrée et s'en est pris au mobilier. À Niort, 5 personnes ont été interpellées après des tirs de mortier, des dégradations et le pillage d'une boutique.
On a eu un commerce de basket qui a été cambriolé, ce qui est plus que regrettable. Ça n'est jamais arrivé. C'est extrêmement choquant.
Le maire Jérôme Baloge s'interroge sur la présence de nombreux mineurs samedi soir.
Tous n'étaient pas à commettre des actes. Mais que font des enfants, parce que ce sont des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans, seuls, non accompagnés dans les rues.
À quelques semaines de la Coupe du Monde de football, l'élu compte mettre en place avec la préfecture des actions de prévention pour responsabiliser les parents.
Ça, c'était le soir du match. Journée bien plus calme hier. Pas d'incident majeur lors de ces célébrations dans la capitale. Quelques individus ont tout de même tenté de forcer l'entrée du Parc des Princes où le club avait réuni ses supporters dans la soirée. La communion, elle, avait commencé dès l'après-midi sur le Champ de Mars. Des dizaines de milliers de personnes au pied de la Tour Eiffel. Un moment d'histoire et de ferveur où Célestin Bougère s'est rendu pour RMC.
Debout, serrés les uns contre les autres pendant de longues heures avant la délivrance.
Merci d'accueillir.
600 mètres de tapis rouge et bleu, une foule déchaînée de chaque côté et au bout une scène avec la tour Eiffel en fond. Les joueurs et la coupe aux grandes oreilles se rapprochent de nous.
Il y a les joueurs qui arrivent là, ça fait quoi de les voir à quelques mètres?
C'est incroyable, c'est la première fois. Vas-y, je suis comme un ouf.
Mathéo a vu passer sous ses yeux à quelques centimètres ses héros.
J'ai des crampes, j'ai pas vu. Je regrette pas, c'est le meilleur truc qu'on peut vivre, c'est incroyable.
C'est un des plus beaux moments de ta vie peut-être?
Pour l'instant oui.
Sur scène, un à un, les joueurs sont acclamés avec un chouchou. Mais c'est le capitaine Marquinhos qui fait le show. De bonheur suspendu, Uriel a du mal à réaliser.
Le fait de les voir comme ça face à vous et tout, c'est dingue en fait, c'est incroyable en fait.
Ceux qui y étaient en garderont un souvenir indélébile.
Moi dans ma tête c'était le feu moi, c'est une fois dans la vie. Mais...
Une fois dans une vie ou pas, tous se donnent rendez-vous dès l'année prochaine pour aller chercher le triplé.
Et suite du périple de ce trophée de la Ligue des Champions qui doit être présenté aujourd'hui sur les cours de Roland-Garros. On l'a appris il y a quelques minutes, la marine française a arraisonné hier un nouveau pétrolier en provenance de Russie, navire suspecté de contourner les sanctions internationales. Ça se passe dans l'Atlantique, en haute mer. C'est la quatrième interception de ce type opérée par la France. On y reviendra en détail dans le journal de 8h. Regain de tension en Iran ce matin. Les États-Unis en viennent d'annoncer avoir frappé des radars et des sites de contrôle de drones. Réponse des gardiens de la Révolution qui disent avoir visé, eux, une base utilisée par l'armée américaine. C'est justement pour faire face aux conséquences de la guerre que le gouvernement prépare des coupes budgétaires. Près de 950 millions d'euros d'annulation de crédit. On avait le chiffre. Avec les deux décrets qui sont dans les tuyaux, on a maintenant les ministères les plus mis à contribution, Romain Cluzel.
Le ministère du Travail va être l'un des plus sollicités pour réduire les dépenses de l'État. 122 millions d'euros de crédits vont être annulés et cela pourrait concerner les aides à l'apprentissage, déjà largement en baisse dans le budget d'origine de 2026. Le ministère tente de dédramatiser et précise que cette nouvelle baisse ne représente qu'1% des sommes dédiées à l'apprentissage. La recherche et l'éducation supérieure vont aussi participer à l'effort et perdent 139 millions d'euros, dont près de la moitié pour des programmes de recherche scientifique et technologiques pluridisciplinaires. En revanche, deux ministères sont, eux, assurés de ne pas subir de coups de rabot. Les armées, dont le budget est en augmentation ces dernières années, et le ministère de la Justice.
Et puis un mot de tennis, la dernière tricolore en lice à Roland-Garros. Sur les courts, aujourd'hui, Diane Paris affronte en huitième de finale Maya Chwalinska, une Polonaise 114e mondiale. Ce sera à suivre sur la radio digitale RMC 100% terre battue, tout comme la rencontre du jour. du soir pour le coup. La numéro 1 mondiale Sabalenka contre la japonaise Naomi Osaka.
Et puis le quintet, c'est à Vichy aujourd'hui.
Départ 13h55, voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 13, Indian Pacific. Son outsider, le numéro 3, Iris Intense, le 13 et le 3.
C'était le journal de Victor Porcher. Il est 7h38.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans la nuit après la victoire du PSG en Ligue des Champions, nuit de violence à Paris et dans plusieurs villes de France, avec quelques blessés, avec des dégradations, des pillages, des incendies, des abribus ou des vitrines de magasins fracassées et des policiers blessés. Bonjour Frédéric Lauze.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Vous représentez les commissaires de police. Le dispositif mis en place, on nous avait promis un dispositif XXL. Est-ce qu'il a été à la hauteur? Comment est-ce possible qu'il n'ait pas empêché cette situation? Vous nous expliquez dans un instant que malgré effectivement toutes ces préparations, la fête a bel et bien débordé. Qu'aurait-il fallu faire? Vous nous le dites aussi dans un instant. Et vous qui nous écoutez, vous nous appelez au 3216, 7h39.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Bonjour Frédéric Lauze.
Bonjour.
Vous représentez les commissaires de la police nationale. Vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires. Il y a eu 22 000 policiers et gendarmes, dont 8 000 rien qu'à Paris et sa banlieue. Un dispositif hors norme, XXL. Vous pouvez mettre tous les superlatifs que vous voulez. Et pourtant, ces scènes de casse et de violence. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus?
Écoutez, le problème n'est pas policier. Moi, j'en suis convaincu. On peut toujours dire toujours plus de moyens. Hein. C'est un petit peu la pensée paresseuse. Le dispositif qui a été mis en place était pour moi dimensionné. Il était basé sur une idée qui était la réactivité, la mobilité des forces de l'ordre. Mais nous ne sommes pas sur une manifestation déclarée, encadrée, qui d'ailleurs bien souvent dégénère en France. Le problème, c'est un problème culturel. De façon festive, on ne sait plus célébrer en France une victoire sportive, notamment dans le monde du football, sans que ce soit un prétexte, un exutoire de casse. Alors on sait le faire à Lens, hein, par exemple, hein. Tout le monde a pu constater, et il y a des enseignements à tirer.
On avait d'ailleurs une auditrice ce matin avec vous, Mathieu, qui effectivement disait, une auditrice de Lens, qui disait sa fierté à ce qu'il y ait eu une fête énorme. Elle dit pourtant, en plus, il y a eu beaucoup de boissons.
Il y avait des bars, de l'alcool.
Mais il y avait les enfants, il y avait les familles, et il n'y avait aucune inquiétude.
On sait faire la fête. De la même façon, Bordeaux-Bègles, vous avez vu. Pareil, on a un public, là on a un souci. Le football est le prétexte à un exutoire malsain. Donc le problème n'est pas policier. On peut toujours dire oui mais il aurait fallu ci, il aurait fallu ça. En amont, le problème est culturel, c'est le prétexte à des débordements, il est politique. Et puis en aval, quelles vont être les sanctions? Quelles ont été les sanctions pour les dernières violences urbaines? La réponse, c'est rien du tout. Les mécanismes juridiques.
Rien du tout. Vous estimez rien du tout?
Rien du tout.
Moi, j'ai évidemment regardé ce qui s'était joué en 2025. Alors, il y avait un peu moins de personnes qui avaient été arrêtées, un tout petit peu moins de garde à vue, mais proportionnellement, il y a eu des peines de prison prononcées. Bon. Alors,
moi, je vais vous répondre. Ce n'est pas du tout à la hauteur, parce que la seule question qu'il faut se payer, c'est qui casse? Vous voyez, on vous parle de dettes, on vous parle de... mais qui paye de ras-le-bol des contribuables? Qui paye? Les auditeurs d'RMC qui sont peut-être en train de travailler, qui sont sur la route en train de s'y rendre, c'est inacceptable, c'est injuste. Si c'est un de vos auditeurs est en train de brûler un feu rouge, malheureusement, ou dépasse de 10 ou 20 kilomètres la vitesse autorisée, croyez-moi, on va chercher sa responsabilité financière et rapidement. Et c'est pas le cas pour les casseurs. Et c'est pour ça que ça va continuer. Le sentiment d'impunité va... Voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler.
Je vous interroge dans un instant sur comment est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour qu'ils payent, pour que ceux qui cassent payent. Et je sais que vous avez des propositions, mais je voudrais d'abord donner la parole à Thierry, parce que précisément Thierry nous appelle là-dessus. Thierry qui nous appelle de Charente, qui est gestionnaire d'un site de e-commerce. Quel regard vous portez là-dessus, Thierry, justement?
Bonjour Apolline, bonjour votre invité. Alors, je ne vais pas dire grand-chose de plus que ce qu'a dit votre invité, parce qu'il a pris tout ce que j'allais à peu près dire. Il a parlé de l'UBB, qui a remporté le titre européen. Mmh. Ça s'est fait dans la joie et très festif. Au rugby, on ne boit pas que du sirop de grenadine. Donc il y a aussi de l'alcool. Le 27 juin, il y aura la finale du top 14 au Stade de France. Votre invité, je pense qu'il pourrait être plus précis là-dessus, mais il va pas mettre un dispositif équivalent à celui qu'il y a eu samedi pour Paris, pour le foot. Donc il y a, et à Lens, ils ont su faire la fête. Donc effectivement, il y a un réel souci avec certains clubs de foot. Et vous pourriez mettre 60 000 policiers, le résultat serait le même à la sortie. Enfin, je veux pas m'avancer là-dessus.
Vous avez l'impression, vous, Thierry, que ceux qui cassent ne payent pas?
Mais c'est l'impunité, voilà. Il y a l'impunité. Il y a eu 400 arrestations au garde à vue. Il y aura rien. Il y aura rien derrière. Il y aura rien. Ils vont rentrer chez eux, ils recommenceront. C'est les mêmes qui balancent des pierres sur les policiers quand ils vont dans certains quartiers. C'est toujours la même chose. Toujours. C'est devenu un jeu. Casser du flic, c'est un jeu. C'est un jeu. Ils ont rendez-vous avec les flics, ils sont contents. Ils vont casser du flic.
Ils ont rendez-vous avec les flics en quelque sorte. Thierry, je voudrais justement que Frédéric Loss puisse vous répondre. C'est un jeu, c'est un sentiment d'impunité. Pourtant, donc je le rappelle, en 2025, il y a un an, même cause, mêmes effets et un certain nombre d'arrestations. Alors le ministre de la Justice à l'époque, déjà Gérald Darmanin, disait que les sanctions n'étaient, je cite, plus à la hauteur de la violence que connaissait le pays, mais il y avait eu des peines de condamnation avec quelques peines de prison ferme, parfois de 8 à 12 mois avec mandat de dépôt.
La plupart, la quasi-totalité des peines de prison qui ont été prononcées n'ont pas été exécutées. Ça, c'est la première chose. Vous avez eu 780 interpellations, 500 gardes à vue. Donc, un énorme travail. Et je veux rendre hommage aux policiers qui ont été blessés, les 57 policiers. Au même moment, on sécurisait également au Stade de France, et ça s'est bien passé, le concert d'Aya Nakamura, ça s'est parfaitement bien passé. Et ces événements festifs, il faut le rappeler quand même que la finale n'avait pas lieu à Paris, c'est quand même surréaliste, hein, ont eu lieu, les débordements, les pillages ont eu lieu dans toute la France. On l'a vu également avec les violences urbaines, qui sont une spécificité française, qui paye. Il y a eu, après la mort de Naël et les violences urbaines de 2023, il y a eu près de 800 millions d'euros de dégâts, près d'un milliard. Qui paye? Faites le bilan. Pourquoi la Cour des comptes et l'INSEE ne se sont pas penchés sur cette question? C'est quand même intéressant pour voir qui paye, pas simplement les condamnations pénales, c'est la responsabilité.
Alors comment on fait pour que ceux qui cassent payent?
Ben déjà, il faut faire un vrai bilan. C'est pour ça que moi je suis favorable à ce qu'on établisse le coût de la délinquance. Ça va responsabiliser tout le monde. Il y a un économiste, Jacques Bichot, qui l'avait fait il y a 15 ans. Déjà, il y a 15 ans, il avait affiché ça en disant il y a à peu près 150 milliards d'euros. Aujourd'hui, on serait certainement plus proche des plus de 200, 220 milliards d'euros. Vous imaginez, ça serait un élément de responsabilisation. Que chaque année, la Cour des comptes, l'INSEE, les inspections...
nous disent, voilà combien ça nous a coûté la délinquance.
Coûte, au lieu ce qu'a fait le gouvernement, de proposer il y a un an une taxe casseur subrepticement. On disait, ben maintenant c'est les communes qui vont... On va intégrer dans les assurances des communes une taxe casseur. Mais c'est choquant, c'est-à-dire que les Français, les contribuables, les Français qui ne créent pas de problème, qui respectent les lois de toute origine, vont payer pour une minorité de casseurs, parce que juridiquement, on a décidé que dans notre pays, au nom de l'individualisation des peines, on ne peut pas engager de responsabilité civile pénale collective. Donc on aboutit à une autre injustice de plus en plus grande et à un ras-le-bol, en particulier
alors,
aux auditeurs.
Alors, je vous repose la question, on fait comment? On fait comment? On les tape au portefeuille?
Oui, on les tape au portefeuille, avec par exemple une présomption de responsabilité civile. On les tape au portefeuille pour aller saisir leurs avoirs patrimoniaux, pour aller saisir les revenus sociaux. On inverse, s'il le faut, la charge de la preuve. Et pour ceux qui disent, ben, juridiquement, c'est pas possible, est-ce que cette situation est possible d'avoir des dégâts en permanence? Vous imaginez l'ouvrier, l'employé qui va travailler, qui a eu sa bagnole, qui a été pété, mais il a que ça à faire, qui a été brûlé, quelqu'un qui vient dans un événement festif avec ses enfants, famille. C'est-à-dire, on est un pays, on sait plus rien faire. L'impunité financière encourage l'irresponsabilité financière va encourager l'impunité. Voilà, je vous le prédis. Non seulement ça va continuer, ça va avoir des traductions, etc. Et puis, un dernier mot, regardez PSG. Qu'est-ce qui est fort dans cette équipe de PSG, qu'on soit supporter ou pas? C'est le collectif. C'est l'excellent état d'esprit. Voilà, on a besoin en France de retrouver un « nous ». On a besoin en France de patriotisme, parce qu'on ne casse pas, on casse en tout cas beaucoup moins, lorsqu'on sent, on a un sentiment d'appartenance. C'est aussi ce qui manque en France.
Merci beaucoup Frédéric Loss d'avoir été mon invité ce matin.
Merci à vous.
Secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Merci aussi à Thierry. Il est 7h51, c'est lundi, c'est la voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Les prêtres doivent-ils dénoncer les crimes sur mineurs qu'ils ont... dont ils ont eu connaissance à travers la confession.
Bien évidemment, en France, c'est l'État qui dirige et c'est pas l'Église. Comme le fonctionnaire, comme l'instituteur, le prêtre est un citoyen, comme les autres.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h51 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, mais d'abord le bonus, Mathieu.
La saga Toy Story qui compte une nouvelle voix. Alors vous connaissez tous les dessins animés où les jouets prennent vie quand on ne les regarde plus. Le cinquième volet est attendu le 17 juin avec la voix de Bad Bunny, vous l'avez reconnu. Première dans un doublage d'animation pour la star portoricaine qui jouera, je cite, une pizza avec lunettes de soleil. Dans un groupe de jouets oubliés, remplacés qu'ils sont par le smartphone et la tech dans le cœur des enfants.
Et quoi, un vieux monsieur en jouet ?
Quoi ? Elle croit que t'es vieux parce que tu perds tes cheveux, Woody.
Bunny a besoin de
les objets connectés vont-ils supplanter les vieux jouets oubliés ? On parle pas de légumes mais de jouets. C'est l'intrigue de ce Toy Story 5 qui sort dans moins de 3 semaines. Le carton annoncé pour le studio Pixar et sa franchise à succès, Woody, Buzz, Jessie et donc une pizza à lunettes jouée par Bad Bunny.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
C'est lundi, c'est la voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
La proposition de loi dite Bétarame arrive ce matin à l'Assemblée nationale. Elle est née du scandale de Notre-Dame de Bétarame dans les Pyrénées-Atlantiques. Plus de 200 élèves qui ont dénoncé des violences commises entre 1950 et 2000. Parmi les mesures, il y a la levée du secret de la confession pour les crimes sur mineurs. Ça fait polémique, mais vous y êtes favorable, Louis.
Sans la moindre hésitation. L'Église ici a échoué sur tous les continents et a échoué depuis des décennies. Que ce soit aux États-Unis, en Irlande, en Allemagne, on recense des centaines de milliers de victimes. En France, rappelons-le, 330 000 victimes, selon la commission Sauvé. Partout, le même réflexe, protéger l'institution et pas les enfants. Trop souvent, trop longtemps, l'Église a couvert les violeurs au lieu de protéger leurs victimes. Alors oui, bien sûr que je suis pour. Le secret de la confession est devenu le secret de l'impunité.
Mais le secret de la confession pour les catholiques, c'est un sacrement. C'est sacré. Est-ce que vraiment l'État doit y toucher ?
Oui, bien sûr. Et ce, d'ailleurs, depuis longtemps. En France, ce n'est pas l'Église qui régit l'État. C'est l'État qui régit l'Église. Et ce, depuis Napoléon, depuis le Concordat, depuis la loi de 1905. La République fixe le cadre. Les cultes s'y plient. C'est ça, la laïcité à la française. Et quand on parle de viol d'enfant, pardonnez-moi, on parle de l'incarnation la plus pure du mal. Il n'y a pas de sacrement qui tienne. Aucun sacrement ne vaut l'innocence d'un enfant. Aucun dogme ne vaut sa joie. Aucune pratique sa santé. Aucune tradition sa protection. La République protège ses enfants par tous les moyens ou elle ne protège rien du tout.
On parle effectivement, et il faut le préciser, parmi les mesures de cette loi, la levée du secret de la confession pour les crimes sur mineurs précisément. Ça reste une situation quand même assez unique. Est-ce que vous pouvez la comparer à autre chose ?
Bah oui, à tout le reste de la société. Un médecin qui découvre qu'un enfant est abusé peut le signaler. La loi a explicitement levé son secret. Pour ça, un instituteur, un éducateur, un fonctionnaire, quiconque a connaissance de violences sur mineurs, a l'obligation légale de le signaler. C'est dans le code pénal. Tout le monde dans ce pays a un devoir d'alerte quand un enfant est en danger. Tout le monde, sauf le prêtre. Comment est-ce qu'on justifie ça en 2026 ?
Vous ne faites pas confiance à l'Église pour traiter ça ?
En rien. Vous comprenez ? En rien. Alors qu'on soit clair, je respecte toutes les croyances. Et tout particulièrement le catholicisme quand même. Il a façonné la France depuis 15 siècles. On ne sort pas de son histoire à coup de loi. C'est une part de nous le catholicisme. C'est une part de moi. Mais les Américains ont une formule qui ici, je trouve, est très utile. Trust but verify. Faites confiance, mais vérifiez. Pendant des siècles, l'Église a fait exactement l'inverse. Elle a demandé qu'on lui fasse confiance. Et elle s'est gardée de vérifier quoi que ce soit. Bétarame en est la dernière coulée. Quand une institution échoue à ce point, on ne lui rend pas les clés, on change la serrure.
Les défenseurs du secret disent « Sans ce secret, plus aucun criminel n'osera se confesser ».
Oui, argument touchant et parfaitement tordu. On nous dit en somme « Laissez le prêtre savoir, Esther, sinon le criminel ne dira plus rien à personne ». Mais le but, pardonnez-moi, n'est pas de soulager l'âme du prédateur. Le but est de protéger ses victimes. Un confesseur qui apprend qu'un enfant est violé et qui rentre chez lui en silence, ça s'appelle un complice. Un supérieur, un collègue, un évêque, un archevêque, un cardinal qui sait, ou pire, qui déplace le coupable dans une autre paroisse, c'est une association de malfaiteurs.
Le problème, c'est que du côté du Vatican, ils disent que tout prêtre qui leverait le secret de la confession serait excommunié. Donc oui. Ils doivent choisir, en fait, désormais, les prêtres.
Mais bien sûr, ils doivent choisir. C'est exactement ce qu'on veut. Et la hiérarchie, pardonnez-moi de le dire, est limpide. Sur le sol français, c'est la loi française qui s'applique, pas le droit canon. Un prêtre est d'abord un citoyen. S'il préfère la fidélité à Rome à la protection d'un enfant, c'est son drame personnel. Mais c'est pas un argument juridique. L'Église a eu 2000 ans pour réformer son rituel. Les enfants violés, eux, n'ont pas 2000 ans pour attendre. Quand l'Église n'a pas su protéger les enfants, c'est à la République de le faire à sa place. Et si pour cela, il faut briser un sacrement vieux de 2000 ans, alors on le brisera. L'enfant, rappelons-le quand même, est infiniment plus sacré que le mystère.
Merci Louis Sarkozy. Voix de droite sur RMC. Demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Il est 7h58. Dans un instant, la météo et le journal de 8h. À la une du journal, 890 interpellations dans la nuit de samedi à dimanche. C'est le tout dernier chiffre. On vient de l'apprendre. Et c'est 45% de plus que l'an dernier. On y reviendra tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.